Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris. Épisode 31 aujourd'hui. Grand coucou à tous les amis qui nous écoutent en podcast audio, mais aussi à ceux et celles qui nous découvrent sur YouTube. Et on n'hésite pas, bien évidemment, les petits pouces, les petits likes, les petites étoiles aussi hein, sur les audio podcasts. Vous n'hésitez pas et vous nous mettez des messages aussi. Très émus hein, de voir tous les messages qui nous arrivent du monde entier, franchement, sur les vidéos. Très sympa de votre part de mettre les petits commentaires. En tout cas, ce matin, les amis, avant de vous dévoiler l'équipe, avant de tchatcher autour de l'actualité du Paris Saint-Germain, j'aimerais juste vous dire tout le mal que je pense de la trêve internationale du mois de mars. Oui, je la déteste. C'est comme ça, ça arrive. Et pourtant, après la blessure de Bradley Barcola, je vous jure, je vous fais la promesse, je me suis dit... Tu respires, c'est pas grave, un seul, c'est rien du tout. Et puis ce matin, à 11h13, là je regarde, pendant qu'on enregistre, il est 13h16, à 11h13, tu tombes sur le tweet de du journal portugais Abola, qui t'annonce, je vais le citer, donc je vais regarder exactement, Mendes n'était pas à l'entraînement avec la sélection portugaise sur ce terrain lundi, il est resté en salle, il y a un doute pour qu'il puisse participer au match face à la Slovénie. Alors, tu sais quoi la Slovénie? Je m'en fous du match Portugal-Slovénie, mais par contre, moi, Mendes, ça m'importe, bien sûr, qu'il soit avec le Paris Saint-Germain dès dimanche face à Marseille et après d'enchaîner face à Rennes. Donc, vous savez quoi? Moi, les trêves internationales comme ça, et vas-y, place-la en février, place-la mi-février, très bien, tout le monde va geler dans les stades, et puis tu ne places pas ça au moment où... Fin mars, tu vas perdre tous tes joueurs et au mois d'avril et au mois de mai, tu joues bien évidemment les moments un peu le money time pour ton championnat ou la Ligue des Champions. Franchement, revenez un petit peu sur terre du côté de la Ligue, même de la Fédé ou des autres Fédé ou de l'UEFA ou de la FIFA. Faites ce que vous voulez, mais changez-moi ça. Voilà, je me suis énervé. Place au titre.
100% PSG, la tribune.
Au sommaire de cette tribune, pas de match, pas de chocolat, mais quand même, j'aime pas sur la trêve internationale dont on vient de parler il y a quelques instants. On se posera quelques questions. L'absence de Bradley Barcola est-elle vraiment préjudiciable pour le Paris Saint-Germain? Jeudi dernier, je ne sais pas si vous l'avez suivi, j'espère que vous êtes bon surtout en LV2 espagnol, Luis Enrique, le coach du PSG, a fait un petit Twitch. Oui, il est réapparu après plus de 400 jours sans Twitch. A-t-il réussi son opération de com? On va en parler, bien évidemment, avec les copains autour de la table. Enfin, dimanche prochain, OM Paris Saint-Germain. Paris doit-il envoyer son équipe type au Vélodrome? Oui, je sais, je la pose et on la tente parce que, très franchement, est-ce que finalement le match le plus important ne serait pas 4 jours plus tard face à Rennes en Coupe de France? Après le calendrier, ça va s'emballer, donc il faut peut-être gérer l'équipe et peut-être ce match quelconque qu'est le Classico, peut-être le mettre de côté. Je rigole, bien sûr, vous énervez pas à mettre des pouces dans le sens inverse. Non, c'est les pouces dans l'autre sens qu'il faut mettre. Merci de nous avoir rejoints. 100% PSG La Tribune, très heureux de vous retrouver. C'est parti.
100% PSG La Tribune.
Qui compose l'équipe du jour? Tiens, je vais demander à Sarah, parce qu'on n'a pas fait de la réalisation, mais est-ce qu'on peut mettre une petite lumière tamisée dans le studio? Quelques instants, s'il vous plaît, pour être un peu à la bougie. Voilà, très tranquillement à la bougie, parce qu'on est que trois aujourd'hui dans le studio avec les copains. Yacine Hamned est avec nous de Paris United, mais aussi auteur de livres dont les hors-jeux du football français. Salut Yacine.
Salut à tous.
Bienvenue.
Merci.
On est pas mal là, à la chandelle, tranquille. Et puis on va retrouver celui qui va pas tenir la chandail, puisqu'on est trois très tranquillement, c'est Romain Bédouc de la team France Bleu Paris du Club des 5. Salut Romain.
Salut les copains.
Ça me fait plaisir de vous revoir parce que, en fait, pour ceux qui sont assez fans de YouTube, c'est un petit peu la Ligue dissoute qui est reconstruite, là, les Avengers de YouTube et du foot, bien évidemment, puisque Yacine et Romain ont fait partie de l'aventure Club des 5. On peut rallumer, s'il vous plaît, parce que là, je crois que sinon.
Ouais, pour YouTube, c'est mieux aussi.
Pour YouTube,
quand même.
C'est mieux. Non, mais voilà, tu vois, j'avais envie de ce petit moment d'intimité pour se présenter, en tout cas heureux de vous retrouver les copains. On va attaquer avec un j'aime pas sur les matchs internationaux, sur la trêve internationale. On va parler de l'équipe de France et peut-être d'autres sélections que vous avez repérées. Je veux juste vous donner une petite liste de résultats, vous inquiétez pas, c'est un peu comme le bottin, mais je vous rappelle qu'on a quand même 17 joueurs en sélection. Juste un petit florilège: Brésil, victoire face à l'Angleterre, 1-0, c'est Beraldo. le Maroc de Hakimi, 1-0 face à l'Angola, c'était en amical. La France, c'était bon, mais c'était bon, c'était nul. J'ai perdu 90 minutes de temps de ma vie à regarder ce match de foot de l'équipe de France. Défaite face à l'Allemagne, 2-0. Victoire, 3-1 du Costa Rica face au Honduras, qualifié pour la Copa América. 1-1 pour le match Pays Basque-Uruguay. Voilà, match Pays Basque, je savais pas qu'il y avait une sélection. Les U23 donc de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire, 3-2. 5-2 pour le Portugal face à la Suède. Et enfin, Gigio Domanaruma a... Alors, il a traversé l'Atlantique, il est parti avec l'Italie faire une tournée. Voilà, là aussi, bravo à la Fédération Italienne. 2-1, victoire face au Venezuela. Et hier, face à l'Équateur, il a pas joué, mais il a été plutôt bon, semble-t-il, face au Venezuela. Voilà, je vous ai fait... C'est comme ça, j'ai pioché, j'ai regardé un petit peu les résultats, les copains, voilà, c'est lancé. Yacine, avec toi, on attaque. Ton j'aime ou ton j'aime pas, comme tu veux.
J'aime pas. J'aime pas tant qu'on y est.
Allez, on y va. Sur quoi?
Bah, cette trêve internationale du mois de mars.
Ah bah tiens, j'en ai parlé il y a quelques instants. Ouais. Toi aussi, ça t'énerve?
Ah, m'énerve depuis tant d'années. Il y avait le rassemblement du mois d'août qui énervait tout le monde parce que c'était le début de saison. Là, il y a ce rassemblement du mois de mars parce que on est dans la ligne droite de tout. Des championnats, la Ligue des Champions. C'est souvent, très souvent, des matchs amicaux. On a des joueurs qui se préservent. Il y a la Ligue des Champions, les quarts de finale qui arrivent très vite. Je trouve qu'elle est vraiment mal placée. Franchement, il y a deux choses. Tu as dit tout à l'heure, peut-être de la mettre en février. Moi, je dirais carrément de ne pas en mettre du tout. Et d'attaquer au mois de juin. Parce que, en fait, je trouve que les sélections, honnêtement, il y a eu une période où le football de sélection avait repris. Là, je trouve qu'il est en perte. Déjà, les matchs sont pas de qualité. Donc, ça donne pas forcément envie de regarder ou de s'y attacher. Mais je pense que pour un ou deux matchs, franchement, les placer en fin de saison, peut-être enchaîner la saison et faire terminer les clubs un peu plus tôt. Et donner peut-être 3 semaines aux sélections pour finir la saison. Je trouve ça plus intéressant que c'est 8-10 jours, un peu, on sait pas trop. Il y a des sélections, là, compris des groupes élargis, des gens qui reviennent en plein milieu, entre les deux matchs qui s'en vont enfin, ça a pas l'air cohérent, ça a pas l'air sérieux, c'est énervant pour tout le monde.
Et Gonçalo Ramos, par exemple, avec le Portugal, voilà. Lui, il joue un match, il marque, plutôt sympa, il s'est pas blessé, il rentre à Paris. Voilà. Tu vas en sélection, tu prends ton ticket. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Parce que
bien
finalement,
sûr.
Romain, parce que, mais non, mais bien pour sûr les sélectionneurs, que c'est important quand même de pouvoir voir les joueurs.
Non. En fait, ça dépend. Enfin, oui, les sélectionneurs qui travaillent pour avoir une vraie cohésion, un vrai groupe, et qui veulent tabler sur les matchs qu'ils vont jouer pendant l'année pour les faire fructifier en compétition internationale, pour eux, oui, ça va le faire. Sauf que c'est une infime minorité, en fait, des sélectionneurs.
J'ai envie de dire que Nagelsmann, par exemple, lui, tu sens qu'il travaille et qu'il est dans l'urgence de son travail. Donc
par exemple. Mais Nagelsmann est plus un coach de club, il l'était encore l'année dernière. Qu'un véritable sélectionneur est habitué du football de sélection. Mais je prends par exemple l'équipe de France, non, ça sert à rien. Parce que le match de samedi est immonde, celui de demain va être un match de remplaçant. Pour autant, tu peux absolument pas faire de conclusion sur ce qui va se passer cet été par rapport à ce que tu as vu. Parce que tu sais que ça sera complètement différent, que ça sera abordé différemment, et que tous les matchs, mais dans le mauvais, là, comme c'est le cas, mais dans le bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des rassemblements de l'équipe de France qui étaient hyper enthousiasmants, mais aucune répercussion sur la suite des compétitions. Dans le cadre des champs, il va nous inventer un truc soit au dernier match de préparation, soit au premier match de poule, et puis ça va marcher, et puis on dira, bah vous voyez, il fallait pas s'inquiéter. Mais il y a un truc qui est hyper révélateur, c'est que les droits télé pour les matchs de l'équipe de France qui ne sont pas des grandes compétitions, ils sont en chute libre. La Fédé est en galère pour vendre ces matchs-là, parce qu'ils sont sans intérêt. Donc voilà, c'est à nous de, si il y en a qui vont dire l'important c'est les résultats, c'est de gagner les compétitions, donc tant mieux, c'est pas grave. Voilà, mais pour les fans de foot qui aiment regarder des matchs de foot, c'est chiant quoi.
Effectivement, et nous ce qu'on demande juste c'est que voilà, tu resserres, on continue le championnat, nous on est en plus pareil, t'es sur une bonne lancée.
Mais l'idée qu'Yacine a donnée, je crois qu'on avait fait une émission au Club des Cinq il y a longtemps où on avait
pas
dit
été entendu à première vue.
Il fallait imaginer des calendriers. Je crois que c'était Wenger aussi qui en avait parlé, qui avait dit quitte à au lieu de faire 3 périodes internationales de septembre à novembre sur 3 fois 2 semaines, tu fais une fois 4 semaines où tu peux rentrer tous tes matchs à ce moment-là. Il y a un mois, tout le mois de décembre, il est consacré à la trêve internationale. Il y a plus de coupures pour les clubs. Il y a une vraie cohésion, un vrai truc. Je trouve ça plus logique, mais c'est pas...
Tu as le temps de travailler, c'est... parce que finalement sur...
Mais est-ce que c'est le but de travailler?
Non.
Non, mais sérieusement, c'est une vraie question. Non,
mais c'est vrai. Mais malgré tout, voilà, parce que là, en vérité, les joueurs, ils arrivent lundi. Ils s'entraînent. Alors, entre ceux qui arrivent un peu fatigués, etc., le décrassage, il y a une vraie séance. Tu fais un match, t'as 3 jours, tu t'entraînes pas sérieusement, tu refais un deuxième match. Tu peux pas travailler. Donc, évidemment que je pense qu'il faut, absolument réfléchir à ces trêves-là. Et on est obligé de le dire aujourd'hui aussi. Déjà, l'impact des sélections, on le voit quand même que ça a diminué. Les clubs payent aussi des joueurs. Ils peuvent pas partir 3-4 fois comme ça dans l'année, 10 jours. Là, ceux qui vont jouer mercredi, bon, cette fois, on n'est pas concerné. Mais d'habitude, quand on rejoue le vendredi, voilà, il y a des mecs qui arrivent le mercredi, le jeudi, tu rejoues en championnat le vendredi. C'est
personne n'est gagnant. Ouais. Personne n'est gagnant. Thierry Henry, il dit, quand l'équipe de France Espoir joue face au U23 ivoirien, il joue vendredi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai eu 2 jours pour bosser.
Oui, puis,
c'est-à-dire que le match est le vendredi. Sauf que comme ils arrivent lundi, il n'y a pas de séance. Il avait mercredi, il y avait le tirage au sort des Jeux Olympiques, donc il n'avait pas pu. Il dit, j'avais 2 jours pour bosser, donc c'était impossible à faire.
Et on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, puisqu'on va parler de Bradley Barcola, bien évidemment, qui est le premier perdant dans tout ça, dans ce rassemblement international, justement avec Thierry Henry qui dit, un peu énervé contre lui, mais puis après derrière qui dit, mais il n'y avait aucun signe de fatigue chez lui, autant il y en avait d'autres, je les ai mis de côté parce que je savais que je ne pouvais pas le prendre, autant lui, c'était pas prévisible à ce qu'il se pète à ce moment-là du côté de Bradley Barcola. Avec toi, Romain, ton j'aime ou ton j'aime pas, à choisir.
On reste dans les j'aime pas comme ça.
Après, allez, comme ça, après, on sera
positif. Mais en plus, t'en as aussi parlé dans ton introduction, c'est la gestion de Nuno Mendes. La gestion de Nuno Mendes, c'est n'importe quoi de faire ça. Donc le mec, il n'est pas là pendant 11 mois.
C'est là où la trêve internationale est complètement, enfin, est donc, terrible. Et qu'il
est sélectionneur. Il n'est pas là pendant 11 mois. Il revient au fur et à mesure, il fait son premier bon match en tant que. Non, il rentre à la mi-temps, je crois. Il rentre quand il est bon à Montpellier.
Ouais,
il rentre à la mi-temps.
Tout à fait.
Mais en tout cas, il joue 45 minutes de très très bonne facture. Laisse-le 15 jours. Laisse-le 15 jours pour continuer de se retaper et d'être bien. Le sélectionne pas. Bon, il le sélectionne. Il le fait jouer. Il joue beaucoup, je crois, sur le premier match. Il est bon en plus. Hein. Non, je crois qu'il joue une mi-temps.
Bon, bref. Je vais aller regarder ça.
Mais il est bon. Il est bon face à la Suède. Il y a une vague de Portugais qui sont relâchés en club, dont Gonçalo Ramos. Il n'y a pas Nuno Mendes dedans. Et là, on apprend quoi? Il est absent de l'entraînement, il est incertain pour le match face à la Slovénie. Non, mais.
Est-ce que.
Boitassou, hein. Voilà. Je dis pas le mot, hein. Mais c'est pas possible. C'est pas possible une gestion comme ça. C'est criminel. Quand tu sais qu'en plus, c'est le Portugal qui a engendré la plupart des blessures de Nuno Mendes, notamment pendant la Coupe du Monde et qui a donné la fragilité qu'il a eue par la suite. Ça saoule, quoi. C'est relou. Alors, je sais que le Portugal, le Paris Saint-Germain, ils s'en foutent. Je peux le comprendre. Mais là, on parle de la santé de leur joueur qui peut être un joueur clé pour leur sélection. Faut réfléchir un peu.
Mais Yacine, est-ce que c'est là le sélectionneur qui ne parle pas avec notre entraîneur? Est-ce que c'est un manque de communication? Parce que c'est ça aussi, à un moment donné. Est-ce que c'est pas à nous, PSG, de dire, allez-y mollo avec lui, on a quand même mis un temps infini à le remettre sur pattes parce que il a fallu quand même se creuser les méninges pour le remettre sur pattes.
Je pense que oui, il doit y avoir un échange et alors effectivement on peut se poser la question sur est-ce qu'il y a eu un échange. Le problème c'est que Nuno Mendes a été absent aussi et donc avec le Portugal et que voilà, le sélectionneur veut le revoir. Après, je pense qu'il y a quand même mieux à faire que de le garder les 10 jours de rassemblement. Il y a mieux à faire que de le faire jouer autant. Il y a de mieux à faire. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est vrai que on a aussi l'échange inverse avec Deschamps qui demande presque à Luis Enrique du temps de jeu pour Kolo Muani.
et qui se fait envoyer paître.
Voilà, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Et je crois que là aussi, ça montre un peu ces trêves. Le problème qu'elle pose parce que finalement chacun est aussi dans son rôle et finalement est-ce que les gens s'occupent des joueurs réellement?
Non.
Voilà, les clubs font ce qu'ils ont à faire avec leurs joueurs parce qu'ils en ont besoin et ils les payent. Les sélections se disent le prochain rassemblement c'est l'Euro. Donc j'ai besoin de le voir une dernière fois, est-ce que je dois m'occuper de savoir s'il faut vraiment le laisser bien parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive au PSG etc. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table pour tout le monde, en fait, pour les clubs, pour la gestion des joueurs, pour le bien aussi des sélections, parce que je pense que deux rassemblements, ça redonnera aussi peut-être un autre goût aux sélections, parce que au lieu de les voir trois, quatre fois pour rien, on les verra deux fois ponctuellement, et ce sera vraiment impactant. Voilà, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un échange et peut-être aussi demander l'avis aux joueurs à un moment donné.
Bah oui, il faudrait peut-être que les joueurs effectivement s'expriment. Nuno Mendes, c'est 62 minutes.
Il y avait Tchouaméni qui en avait parlé lors de sa conférence de presse la semaine dernière, là, je crois que c'était jeudi, où il dit, on lui repose une question sur le fait de... Parce qu'il s'est exprimé sur le nombre de matchs que les joueurs jouaient. Et il dit de manière un peu ironique, je vais essayer de bien formuler ma réponse parce que j'avais eu des problèmes la dernière fois que je l'avais dit. Donc voilà, il a dit, bien sûr, c'est pour les joueurs, c'est pas bien, quoi. Mais bon, c'est pas du tout la tendance de diminuer ça.
Ah bah quand tu les vois en train de nous annoncer une compétition internationale toutes les trois semaines, on en a encore une à vous proposer. Hop, hop, attention, bref, c'est un...
Alors là, j'ai une Coupe du Monde des clubs.
Voilà, c'est ça, un truc à vous proposer, alors, ça va être super.
Il y a le quatrième de Serie A qui est déjà qualifié, mais on sait pas pourquoi. Alors, il s'appelle la Juventus, mais c'est parce c'est que... Ça. Mais par contre, le deuxième et le troisième, ils sont pas encore qualifiés. Mais ils le seront peut-être, hein. Mais c'est vachement bien.
C'est terrible de voir bien. Ça, pour le foot mondial et pour surtout les joueurs, hein. C'est aussi à eux qu'il faut penser. Les amis, on continue avec Yacine cette fois-ci. Bah, ton j'aime, puisqu'il y a eu le j'aime pas il y a quelques minutes.
Bah, j'aime Beraldo, parce que je suis presque impressionné en fait de ce qui se passe. Alors, il y a toujours la jeunesse, on se dit, c'est un peu à double tranchant. Il y a un peu cette insouciance, tout va bien. Et puis, ou alors l'inverse, trop de pression et je dois prouver. Et lui, on a l'impression que, je sais pas si c'est ni l'un ni l'autre, il joue au foot. Ouais. Voilà. Il a envie de jouer au foot, il est content, il est bon, il est de mieux en mieux. Je vais pas mentir, j'ai un petit peu peur quand même, parce que il vient quand même d'enchaîner une saison entière au Brésil.
Ouais, il y a un moment où ça va.
Je pense pas qu'il était prévu au départ de jouer autant avec le PSG. Il y a la sélection qui arrive, ça commence à faire beaucoup. Alors, il a 20 ans, il n'y a pas de problème, hein, mais bon, on reste tous des humains et je pense qu'à un moment donné, j'ai peur qu'il le paye, j'espère pas, le plus tard possible, en tout cas si ça doit le faire. Mais c'est vrai que je suis impressionné par son adaptation aussi, parce que il arrive en hiver et on a connu des joueurs qui arrivent déjà d'Europe, qui ont du mal à s'adapter. Lui, t'as l'impression que il est là et ça fait un moment qu'il est là, quoi.
C'est Luis Enrique qui a dit d'ailleurs.
Il y a une Copa América.
Oui,
cette année.
Qui arrive. C'est Luis Enrique qui a dit il est plus parisien que brésilien, ouais. Et ça fait à peine trois mois qu'il est là. Même lui est épaté, époustouflé de l'adaptation et sa victoire. Donc il y a eu victoire, hein, pour sa première sélection. Mmh. Il va gagner à Wembley. Toujours avec son sourire.
Mais ce que j'allais dire, c'est ça qui me fait. Alors, on sait que c'est un mécanisme presque de défense par rapport au stress. Mmh. Et donc
travail qu'il fait depuis deux ans avec un. C'est pas un préparateur mental, c'est même peut-être un psychologue qui lui a appris de kiffer tout ce qu'il est en train de vivre.
Et puis il dégage le stress via le sourire, etc. Et c'est pour ça qu'il appelle le Joker au Brésil. Mais je suis désolé que là j'ai les images devant moi. Quand tu le vois pendant l'hymne, fermant les yeux, plein sourire, tu fais ah, mais en fait c'est kiffant le foot. En fait. C'est bien de vivre ça. D'être dans cette situation-là, tu retrouves un peu l'innocence, l'insouciance même du foot. Et je trouve ça trop cool.
Il est allé dire qu'il était très reconnaissant. Il a parlé dans la presse, pour la presse brésilienne, après son match face à l'Angleterre samedi. Je suis très reconnaissant envers Luis Enrique de l'opportunité qu'il m'a donnée de représenter les couleurs du Paris Saint-Germain. Je pense d'ailleurs que sans lui, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Je suis donc très reconnaissant envers lui de pouvoir être ici au club. Il faut le savoir, ça s'est passé en deux temps. C'est bien évidemment d'un côté la cellule recrutement qui a repéré les demandes exactes de ce que voulait Luis Enrique comme profil de joueur. Ça a été dans les datas, ça a été sélectionné. Et ensuite, derrière, Luis Enrique a fait un travail comme quoi, je vais déraper un petit peu, mais comme quoi, quand on travaille bien et en toute intelligence,
c'est possible, tu
on
veux
peut
dire,
trouver
un,
des profils.
Un directeur sportif et un entraîneur.
Voilà. Oh là là. Yacine, franchement.
On peut trouver
ça doit te plaire, ce genre d'histoire.
Des profils qui correspondent à ce que tu veux.
C'est dingo. C'est une histoire de fou.
J'ai presque du mal à le dire, tellement j'y crois pas.
Il y a une petite larme. Ceux qui n'ont pas la vidéo, qui ne peuvent pas, sachez qu'il y a une petite larme de Yacine.
Mais évidemment que quand on décide de travailler, qu'on s'écoute aussi, voilà, qu'on définit les profils dont on a besoin, qu'on s'écoute et qu'on va étudier et qu'on regarde des matchs, qu'il y a une cellule qui travaille et qui est écoutée aussi, parce que c'est ça, on arrive à faire des bons choix. Et comme par hasard, on parlait de son adaptation, et c'est un joueur qui s'adapte très vite. Alors évidemment qu'il y a un peu de réussite là-dessus, parce que l'adaptation, on peut jamais vraiment la prédire, mais voilà, malgré tout, ce que veut Luis Enrique en termes de jeu, et que Beraldo s'adapte aussi vite, c'est pas une coïncidence, quoi.
Effectivement, en tout cas, le joueur est en train de s'adapter, et ça fait plaisir aussi de le voir progresser encore, et puis on va le voir grandir finalement. Ça me rappelle quand même une certaine histoire d'un certain Marquinhos qui, il y a 10 ans de cela, arrive. Alors lui, il était déjà adapté à l'Europe, voilà. Mais par contre, voilà, ça s'est quand même été fait de manière express.
Même
son intégration.
Lucas Moura qui venait de Sao Paulo, c'était aussi assez rapide, hein, puisque je me rappelle, il avait joué le match contre Valence.
Ouais.
Il était rentré quasiment direct. Ouais.
Match de Valence.
Ouais.
Il avait fait la misère.
Ouais, c'était fou.
Exact. Je me revois dans le stade de Valence, parce que ce jour-là, bref, on a pu faire la retransmission, mais je peux te dire un truc, c'est que Pierre Ducrot, à l'époque, qui était notre consultant, a transpiré de se dire, on ne va jamais retransmettre ce match, ça s'est joué, je crois, à 3 minutes près. Voilà. Un jour, j'écrirai mes mémoires, pour vous raconter comment ça se passe vraiment, les retransmissions, sportives. Mais tu sais quoi, mais vraiment, j'ai fait Valence, j'ai fait, et là, je m'y suis revu. Truc avec la poussière, c'était bref, une catastrophe. Avec ton j'aime, désormais, pour terminer, Romain.
Bon, dans cette trêve internationale horrible, ce qu'on peut au moins voir de positif, c'est que sur les deux matchs de l'équipe de France, la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain ont joué le premier.
C'est vrai.
Donc au moins, avoir Lucas qui a joué le premier, qui vraisemblablement ne devrait pas jouer le deuxième, puisqu'il y a Théo qui va jouer, et en défense centrale, je le vois mal l'aligner, c'est positif. Dembélé, il a joué le premier, je pense qu'il jouera. S'il joue le deuxième, c'est plus dans l'ordre de 20 minutes, donc c'est plutôt bien. Warren, il a joué le premier, il jouera pas le deuxième, et Kylian, de toute façon, Kylian, il jouera. Donc bon, ouais, ça c'était... Et Colomwani n'a pas joué, donc il va jouer plutôt le deuxième. Donc au moins, on peut se dire que, je pense notamment à Lucas qui, toujours, je pense que toute la saison, mais il faut pas oublier, même maintenant qu'on est en mars et qu'il n'y a pas eu de vrai pépin pour Lucas, il faut pas oublier que c'est une saison de reprise post-croisée et qu'il faut... même à ce moment-là, continuer de manager son temps de jeu et ses petits pépins potentiels. Donc voilà, que Lucas, il ait joué ce match-là et qu'il ne joue pas le prochain, sachant qu'il y a Marseille, après il y a Rennes et après il y aura la Ligue des Champions. Mais clairement, je l'ai déjà enlevé. Mais c'est bien. C'est cool. Au moins, il y a ça. Et voilà, maintenant, on va croiser les doigts pour Kylian face au Chili, parce que les défenseurs chiliens, ça va être marrant.
Je profite de vous avoir sous la main. Alors déjà, ça, plus derrière l'accueil vibrant qu'il va recevoir.
Ah oui, en plus, ça se trouve, il va rester à Marseille.
C'est ça.
Parce qu'il va chier là-bas aussi.
C'est ça. Ça se joue à Marseille, je vous le rappelle. Face au Chili, ce sera à suivre sur l'antenne de France Bleu, à suivre demain soir sur notre antenne. J'en profite, puisque là tu m'as tendu la perche, Yacine. Est-ce qu'il y a un joueur français et donc parisien, là je parle que des parisiens, de ceux qu'on vient de citer, est-ce qu'il y en a un à sauver dans cette rencontre, dans cette mélasse que nous avons pu voir samedi entre la France et l'Allemagne? Alors l'Allemagne très bien, mais alors la France, waouh! Est-ce que t'en sauves un ou c'est les...
Est-ce qu'on peut considérer que Florian Wirtz est un futur joueur du Paris Saint-Germain?
Qu'est-ce que ce serait
donc,
bien,
Et donc à partir de ce moment-là, voilà, on en sauve un.
Bien se rappeler qu'on n'a jamais eu de grosse réussite avec des joueurs allemands.
Ouais. Et Draxler au début, c'est bien, c'est même très bien au début.
Ah oui, parce qu'il est juste poussé, oui, puis il découvre pas la vie Erasmus de Paris, quoi. C'est un truc, c'est ça le problème. Julian, si tu nous regardes, on t'embrasse.
Je sauverai un peu Dembélé parce que malgré tout, c'est le seul qui a un peu tenté, qui a essayé de les déséquilibrer, mais globalement, c'était pas assez. Je pense qu'il y a plein de choses, mais déjà Didier Deschamps, il va pouvoir donner un peu de temps de jeu à Colomwani.
Il
fallait lui en donner, donc ouais, il va pouvoir le faire tout seul. Il a besoin de personne.
Ça c'est quand même marrant. Ça veut dire que Deschamps dit à Luis Enrique qu'il faut faire jouer Colomwani, mais Deschamps ne fait pas jouer Colomwani.
Ouais, mais c'est ça qui est fantastique.
Moi, je suis moins optimiste que Romain parce que en fait, j'ai peur que le match de samedi, je vais pas dire oblige, mais fasse réfléchir Deschamps sur le fait de...
Ah, tu penses qu'il va pas mettre les coiffeurs?
Ouais. Parce que je pense qu'il est fâché du match et que... alors, ok, c'est le Chili. Peut-être qu'il y aura plus de changements à partir de l'heure de jeu. Mais je le vois bien repartir avec une majorité des joueurs parce qu'il a été déçu et que malgré tout, on sait que ça se rapproche quand même de l'équipe type qui l'envisage là.
Après, sur les Parisiens, pas... je suis pas sûr que ça influe parce que
bon, ah, Dembélé, Mbappé, franchement,
ouais, moi, Dembélé, ouais. Bon, Mbappé, voilà. Je pense que de toute façon,
Mbappé,
c'est
acté.
Oui, c'est acté, mais
le jour où Dembélé, Deschamps, en fait, le seul jour doute... où Deschamps fait, le met dans les tribunes ou le met dans les, enfin, tu vois, sur le banc,
faudrait... si, il l'a fait contre l'Allemagne, bah, en septembre.
Oui, quand Dortmund, c'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, quand mais... il sortait de sa non-préparation.
Oui, voilà. Mais après, tu vois, ça concerne pas non plus, tu vois, Lucas, je pense qu'il jouera pas. Parce que Théo, il perd pas au change. Je pense que Warren, il l'a vu, mais il va pas le remettre une troisième fois de suite titulaire quand il l'a, parce qu'il l'avait mis contre Gibraltar également. Et je pense que s'il le met et que Camavinga est encore sur le banc, il peut se couper de Camavinga, ce qui est pas forcément
Bien sûr.
Intérêt. Et après, oui, il reste Dembélé, quoi. Mais peut-être, hein, peut-être. Ça se trouve, il va mettre que Kolo Muani à droite et Giroud dans l'axe, quoi, parce que Giroud est pas titulé sur le premier match non plus. Donc
un petit mot sur Warren, Zaïre Emery. On l'attendait. Alors Gibraltar, hein. C'était sympathique. Il marque son but. Après, bon, bah, il se blesse. Là, il se blesse pas, mais le premier quart d'heure, bah, il est comme toute l'équipe de France. Moi, je trouve qu'il s'en sort un peu mieux dans le deuxième quart d'heure où il essaie de voilà, il reprend son jeu normal et puis il distribue un peu pour Dembélé parce que finalement, il fallait quand même quelqu'un pour aider Dembélé. Mais c'est vrai que c'est pas dire que la marche est trop haute, mais pour l'instant, il n'a pas gagné des points.
Ouais, après, je pense qu'il y a deux éléments pour moi importants. C'est que c'est presque rassurant qu'à 17 ans, 18 ans.
Oui, c'est vrai, 18 ans.
On soit encore en phase d'apprentissage.
C'est pas faux.
La deuxième chose, c'est que surtout quand on est jeune, on a besoin de s'appuyer sur un collectif. Et alors, déjà, l'équipe de France, c'est pas un collectif, c'est une somme d'individualités. Et quand tu prends l'eau comme ça, bah ouais, c'est pas lui qui va sortir, enfin qui doit sortir l'équipe de l'eau. Maintenant, c'est pas, moi je trouve que c'est pas inquiétant. J'ai plus eu peur un peu de sa période de début février. Je trouvais qu'il avait beaucoup enchaîné et on le sentait vraiment dans le dur. Là, il a été dans le dur parce que l'équipe était dans le dur. Mais déjà, au moins physiquement, je trouve qu'il est revenu même dans ses courses et tout. Il y a quelque chose de rassurant. Et encore une fois, il n'est pas aidé non plus par les autres. Et c'est à ce moment-là que le collectif doit porter un jeune. Bon, bah, comme il n'y a pas de collectif.
Non, mais c'est surtout, tu tombes contre tes papas, quoi. Quand tu tombes contre Kroos, Gundogan qui a Wirtz qui revient derrière et tout. Enfin, c'est pas facile. Et c'est vrai que sur le milieu à 3, Tchouaméni, Rabiot, Zaïre Emery, c'est pas Zaïre Emery qui doit normalement porter ce truc-là. Ah, t'as des tauliers, t'as un mec qui est titulaire au Real Madrid, l'autre qui est titulaire à la Juventus. Alors je sais que Rabiot était un peu blessé dernièrement, mais ils se sont fait bouffer. En fait, c'est pas Zaïre Emery qui a pas été bon, ils se sont fait bouffer les trois par les Allemands, ils se sont fait avoir. Et donc oui, effectivement, il a moins sorti son épingle du jeu, mais c'est pas... pour moi, il n'y a rien d'inquiétant. Je pense qu'il a validé sa place dans le groupe pour l'Euro. C'est déjà fait, quoi.
Bah tiens, tu me tends la perche et après on va parler de Barcola. Ça sera notre premier débat. Mais juste sur Warren, Zaïre Emery, parce que ça fait flipper personne qu'il y ait des gens qui commencent à se poser la question de savoir s'il ne va pas faire les deux compétitions internationales et l'Euro et les Jeux. Et nous, après, on récupère, on n'a plus de joueurs pendant 2 mois derrière.
Ça, c'est à nous de le décider. Hein.
Mais j'espère surtout que la jurisprudence Pedri va faire réagir les gens parce que le dernier jeune qui a voulu tout enchaîner, c'est lui et on a vu où ça a fini. Quand on est jeune, effectivement, on a plus de fraîcheur, déjà mentale, même physique, mais au bout d'un moment, le corps, il peut pas tout faire, quoi. Pas tout faire avec cette pression. Et là, on parle de JO, des JO déjà qui ont pris une certaine importance au foot.
Parce qu'ils sont en France.
En France. Oui. Là, donc, il y a une pression supplémentaire qui va être là. Ok, il est peut-être armé sur beaucoup de points, mais c'est pas possible. Et puis après, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre la saison, début septembre.
C'est ça.
Non, je pense qu'il faut à un moment donné faire un choix. Et bon,
mais il faudrait quoi? Que le Paris Saint-Germain fasse son petit courrier comme le Real en disant hop.
De toute façon, les JO, c'est pas une date FIFA. Donc si le PSG a envie de dire non, il va pas aux JO, il y a pas de courrier.
Surtout qu'en France, il n'y a pas ce qu'il y a par exemple en Espagne ou en Angleterre. En Espagne ou en Angleterre, les clubs sont obligés de libérer leur sélection locale. C'est-à-dire que le Real Madrid qui envoie le courrier au Paris Saint-Germain, si la sélection espagnole U23 pour les Jeux Olympiques sélectionne Nacho, par exemple, ils sont obligés de l'envoyer.
D'accord.
Il y a que pour les clubs espagnols. Pareil en Angleterre, seulement pour les Anglais des clubs anglais. Par contre, quand les clubs,
mais en France, il y a
joueurs,
pas.
Les joueurs, en France, on n'a pas ça.
D'accord.
On n'a pas ça. On peut refuser parce que c'est pas une date,
On se rappelle au JO.
Et bah, au JO précédent, il y en a eu plein.
Tokyo, c'était. C'était les bronzés, les bronzés aux Jeux Olympiques. franchement, c'était la fête et c'était n'importe quoi.
Et pareil pour donc pour les Français qui sont à l'étranger, suivant les législations des pays, ils peuvent ou non être libérés ou obligatoirement libérés. Mais pour revenir sur Warren et les JO, s'il veut absolument faire les JO en 2028, il sera encore éligible. Il aura encore moins de 23 ans.
Bah voilà.
Il aura moins de 23 ans. Donc il sera encore éligible s'il veut aller se faire un petit truc à Los Angeles. Ça peut être pas mal.
Voilà, très bien. Bah ça, tu sais quoi, je suis fier de toi. On a trouvé la solution. On va appeler Thierry Henry pour lui dire, écoutez, voilà, on a une solution pour vous. Vous faites ça dans 4 ans. Les amis, on parle de jeunes, justement d'un jeune qui pourrait très bien être avec les U23 et il y a de fortes chances qu'il y soit avec l'équipe de France et avec Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. C'est Bradley Barcola. C'est notre premier débat dans cette émission et on va parler de l'absence de Bradley Barcola. Alors, le Paris Saint-Germain, ce week-end, nous a mis des petits messages en disant « on ne communique pas ». Certains médias ont su savoir qu'il avait donc un problème, un ischio droit, gauche, on a donc eu cette lésion. Alors après, on n'a pas voulu nous donner le stade exact, ça serait peut-être un stade 2, si c'est un stade 2, si j'ai bien compris. J'ai pas fait médecine, mais on est entre 4 et 8 semaines.
C'est sur France 3. À partir de 20h30.
C'est ça.
Le stade 2.
C'est ça, le stade 2. C'est bon, ça. Ça, c'était la blague. Elle est bien naze. Celle-ci, tu sais quoi, tu te fous de ma tronche sur mes blagues. Mais là, si c'est pas une blague de boomer, t'es encore plus vieux que moi.
Non, parce que j'ai donné le nouvel horaire sur France 3. J'ai pas donné l'horaire du dimanche.
En tout cas, Allez, vas-y, repars. On va parler de Bradley Barcola. Et Bradley Barcola, donc, va être absent pour au minimum deux petites semaines. Ça, c'est pour vraiment au bas mot, puisque pour l'instant, il n'y a pas une vraie communication du Paris Saint-Germain pour nous donner des informations sur le joueur. Les amis, est-ce que l'absence de Bradley Barcola est-ce qu'elle est vraiment, je mets le vraiment, préjudiciable pour le Paris Saint-Germain dans la séquence qui arrive? Pourquoi je mets ce vraiment? Parce que je vois un peu un joueur qui est moins fringant sur le dernier mois. Oui, c'est un joueur important, voilà, on le découvre, il est important, mais est-ce que c'est vraiment préjudiciable pour le Paris Saint-Germain sur la séquence et qui nous arrive? Qui veut attaquer? Romain? Allez, c'est pour Romain. C'est parti. Il se regarde, la petite moue à toi, moi, vas-y.
Oui, elle est vraiment préjudiciable.
Très bien.
J'entends les moins bonnes prestations de Barcola sur les dernières semaines. Je suis entièrement en accord avec ça. Je trouve normal qu'il soit sorti quand il devait être sorti, notamment le match retour à la Real Sociedad où Lee Kang-in rentre et fait une très bonne rentrée. En revanche, pourquoi elle est quand même vraiment préjudiciable cette absence? Parce que Barcola offre un profil qui permet de faire briller cette équipe-là. Et notamment dans le placement que peut avoir Mbappé. C'est-à-dire qu'avec Barcola, tu sais que tu vas avoir un bourbier sur un côté. Tu sais qu'avec Dembélé, tu as un autre bourbier sur un autre côté. Et donc, tu es beaucoup plus en galère pour défendre tes deux côtés et avoir en plus Mbappé qui va se balader entre tout ça. Donc, avoir cette possibilité en moins, sachant qu'on n'a pas d'autres joueurs dans le profil de Barcola, à part Dembélé qui est déjà là, je trouve ça préjudiciable. Je pense que dans les ajustements que voudrait faire Luis Enrique en prévision de Barcelone et pour Barcelone s'il rate Barcola, ça lui enlève une petite marge de manœuvre également. Donc oui, elle est préjudiciable et c'est bien dommage qu'il soit blessé, même si il répond un tout petit peu moins aux attentes là sur le dernier mois que ce qu'il nous a montré sur décembre, janvier et début février.
Et Yacine?
Moi, je pense qu'elle est préjudiciable plus dans le coaching qu'aujourd'hui sur Barcola en lui-même, parce qu'effectivement, il est moins bien. Et que sur les derniers matchs, Mbappé a repris sa place côté gauche. Je pense qu'Mbappé, le match de retour à la Sociedad, il a montré qu'il était quand même capable de un peu travailler. Alors, ce ne sera jamais Cavani en termes d'efforts défensifs, mais il a montré qu'il était capable de travailler. Et à partir du moment où il est capable de faire certains efforts défensifs, sa place côté gauche, elle souffre moins de discussions. Et du coup, avec Ramos dans l'axe, voilà, ça change tout. Donc je pense qu'elle aurait été plus préjudiciable il y a 2 mois. Aujourd'hui, elle l'est en termes de coaching, parce que malgré tout, Barcola, il offre aussi cette possibilité de pouvoir jouer des deux côtés, de travailler défensivement, d'amener de la vitesse. Ça, on est d'accord. Maintenant, en termes de 11 de départ, je pense qu'elle est moins préjudiciable qu'il y a quelques semaines.
Parce que, en fait, c'est vrai, c'est le gros avantage de ce Paris Saint-Germain qui, cette année, a quand même plusieurs cartouches. Mmh. Si je regarde bien, Asensio est sur le retour. Mmh. Lee Kang-in peut être aussi opérationnel sur le, mmh. Devant. Randal Kolo Muani, c'est pareil. On a du Gonçalo Ramos. Enfin, t'as quand même un peu plus de matière qu'à l'habitude, non ?
T'as plusieurs joueurs pour un seul poste, considérant que Mbappé et Dembélé prennent les deux autres. Ça, c'est clair. Maintenant, t'as raison, Yacine, sur le fait que Mbappé à gauche, c'est bien mieux depuis la Real Sociedad. Il a peut-être compris, je sais pas ce qui s'est passé avant. Il a compris qu'il fallait que le football, c'était attaquer et défendre, je sais pas, ça me paraît fou.
Mais il sera temps d'en parler à tout moment, bientôt, un jour peut-être.
Oui.
Il n'a rien été dit. Il l'a dit en conférence de presse. Il l'a dit que rien n'avait été décidé. Voilà.
Enfin, et que s'il y avait des choses à annoncer, comme un homme,
voilà.
On annoncera au moment où il faudra annoncer.
Mais par contre,
quand il n'y a rien à annoncer, bah, ça ne sert à rien d'annoncer des trucs. C'est désolé, ça. Je n'ai pas de biscuit pour vous.
C'est ça.
Alors, c'est ce que je disais.
Bel hommage à Kylian Mbappé.
Mais donc, pour revenir sur le fait que oui, Mbappé est meilleur à gauche qu'il ne l'était en début de saison, je trouve, en tout cas dans tout ce que demande son poste sous Luis Enrique. Avoir les trois piles devant Dembélé, Barcola, Mbappé en transition, sachant que tu vas jouer d'abord à Barcelone, qui, même si elle ne brille pas balle au pied, est une équipe qui l'a quand même automatiquement parce que c'est dans l'ADN de ce club-là et que en plus à domicile, ils vont vouloir essayer d'avoir le ballon. Pouvoir jouer en transition sur cette équipe-là avec ces trois flèches, bah, t'es quand même bien. T'es quand même
c'est d'abord
plus...
au parc. Là.
Comment ?
D'abord au parc.
C'est d'abord au parc, pardon. Oui, t'as raison. Oui, mais je
suis en train de me dire, tu sais quoi ? Ouais, merci Yacine, parce que je suis en train de me dire, j'ai fait un truc. C'est sûr que j'ai réservé des billets d'avion, vous le dites comme ça. Et j'étais en train de me dire, pour y aller, tu vois, pour aller bosser, quoi. Non, mais, je me suis trompé.
T'as raison, mais pour moi, en fait, la problématique. Enfin, pourquoi je dis ça ? Parce que la problématique Barcola, pour moi, il n'est pas là ni à l'aller ni au retour. Si on nous dit quelques semaines, c'est dans 2 semaines et demie, le retour, c'est 6 jours plus tard. Ça paraît trop short, quoi. Ça paraît trop short pour qu'il soit là pour le quart de finale. Donc c'est pour ça que je prenais aussi le retour en compte.
Mais on a de la matière.
Mais oui, bien sûr qu'il y a de la matière, bien sûr qu'il y a de quoi faire. Et t'as raison, par exemple, Asensio en faux neuf, ça peut être un ajustement qui peut être intéressant avec pour que lui soit le quatrième milieu et avoir Dembélé et Mbappé en flèche devant, ça peut être un truc. Mais voilà, c'est une option en moins. Barcola, c'est un truc en moins, quoi.
Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que toute cette saison, on a un peu pesté en se disant, ouais, on comprend rien, la tactique de Luis Enrique, sauf que tout le monde a été utilisé à peu près à tous les postes, et que lui et son staff, Yacine, je sais que t'aimes ce genre de choses, lui et son staff, ils savent à peu près là où ils peuvent aller, en se disant, bon, bah, Barcola, ok, on peut pas, donc ça, on peut faire ça, enfin, ouais. Je trouve ça assez intéressant quand même, au final.
Mais c'est exactement ça, parce qu'on s'est plaint depuis plusieurs années de pas avoir de plan B et plus.
B, C, D, ouais. Voilà.
De voilà, de pas savoir, de pas pouvoir s'adapter à la moindre absence. Je pense que Luis Enrique, il a profité malgré tout des points d'avance qu'il a en championnat, même s'il avait déjà commencé très tôt dans la saison à changer les postes, à utiliser les joueurs un peu partout, mais le fait d'avoir des points d'avance, ça te permet quand même d'avoir un ou deux matchs que tu peux, entre guillemets, balancer. Ou en tout cas, si ça se passe mal, c'est moins dramatique. Et aujourd'hui, bah, tu te retrouves à pouvoir faire jouer Lucas Hernandez dans l'axe ou latéral, à pouvoir faire jouer Barcola à droite ou à gauche. Voilà, bah, je trouve que c'est aussi le travail d'un coach de prévoir certaines absences, parce que on l'a vu, hein, depuis 4-5 ans, la moindre absence, c'est un drame. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de doublure là, ce poste-là, on n'a pas de doublure au milieu. Dès qu'il manquait un relayeur, c'était la catastrophe. Si on n'avait pas l'attaquant à droite, c'était fini. Voilà, bah là, on a des joueurs, comme vous l'avez cité juste avant, Asensio qui peut jouer 2-3 postes, Lee qui peut jouer 3 postes, Barcola qui peut jouer au moins 2. Bah voilà, il s'est donné les moyens.
Jouer 2 maintenant.
Ouais, il s'est donné les moyens, en fait, de pouvoir construire une équipe compétitive. De pas improviser une équipe à la dernière minute s'il y a des absents.
Alors moi je vous la pose la question et après on arrête là les copains et on fera la pause et on parlera ensuite de Twitch et Luis Enrique qui s'est fait sa petite conf là tout seul tranquillou avec ses fans espagnols. Juste pour avec tous les deux, vous mettez qui à la place de Barcola sur les gros matchs, sur les grosses échéances qui arrivent pour le Paris Saint-Germain côté gauche?
Bon, Mbappé.
Yacine.
Mbappé avec Ramos et Dembélé, pour moi c'est le trio qui démarrera, enfin qui doit démarrer pour l'instant les matchs.
Très bien.
Et pour Mbappé, Monsieur Ramos, Dembélé pour Rennes. Les deux gros matchs, c'est quoi? C'est Rennes et Barça?
Bah ouais, j'ai l'impression. Ouais.
On viendra sur Marseille après.
C'est ça.
Mbappé, Ramos, Dembélé pour Rennes. Mbappé, Asensio, Dembélé pour le Barça.
D'accord.
Si Asensio est apte.
On prend. Voilà, vous l'avez noté les amis, vous l'aurez peut-être entendu chez nous sur France Bleu Paris dans 100% PSG, la tribune, l'épisode numéro 31 que vous écoutez très tranquillement, peut-être dans votre voiture tranquille ou peut-être dans le métro, vous avez, voilà, comment on appelle ça ?
Scroller,
voilà. Hein. Je suis en train de faire le geste comme un coup, je suis en train de dire, c'était pas swipé,
j'ai dit, bon, bref, non, scroller. Swipé, c'est autre chose.
Ouais, c'est autre chose, c'est comme ça. C'est dans l'autre sens. Voilà, je suis en train de dire comme ça. Bon, bref, laisse tomber. Bon, bref, je vous salue, ceux qui nous découvrent sur les réseaux et en vidéo, bien évidemment. Le vieux con, c'est moi, c'est Bruno Salomon, et on va faire la petite pause qui s'impose et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris.
Après la victoire très nette à Montpellier 6 buts à 2, le Paris Saint-Germain a pu profiter de la trêve internationale pour continuer à travailler pour le rendez-vous que tous les supporters du PSG attendent, le Classico OM-PSG. C'est à vivre ce dimanche dès 20h30 sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, 100% supporters du PSG.
100% PSG, la tribune.
Avec nous, Yacine Hamned et aussi Romain Bédouc dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris. Et on va parler de notre coach, Luis Enrique, voilà, celui qui est peut-être le plus moderne, hein, puisqu'il va directement vers ses fans pour leur parler. Et j'aimerais, tiens, qu'il nous dise un petit coucou.
Hola, hola, hola. Se me escucha. A ver ese chat que va lentito. Buenas noches a todos.
Voilà.
¿Me escucháis? Vamos a empezar por la A.
Très bien.
Dicen que sí. Sí, 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 me escucháis.
Un petit fond d'écran, en tout cas.
¿Cómo estáis?
Voilà, il nous a fait le coucou. C'était juste pour saluer et vous faire voir un petit peu comment ça s'est passé. Et donc, il a répondu à une vingtaine, trentaine de questions. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Beaucoup de questions en espagnol. On va juste rappeler.
Que en espagnol,
ouais, en espagnol, parce que au début, nous. Simple, voilà, on se dit pourquoi pas, peut-être un traducteur juste à côté,
non.
Mais j'ai une vieille pensée pour Madame Brasseur, ma prof de quatrième en espagnol qui s'est arraché les cheveux et qui en a perdu beaucoup avec mon niveau d'espagnol et tu te dis bon bah écoute, voilà, ça a l'air d'être sympa son émission, mais j'attendrai les traductions, juste, et par contre là, plus de sérieux, il a d'abord parlé de la fondation et de la fondation qui a un nom. Cette fondation, c'est le nom, le prénom de sa fille, Shana.
Shana
qui est décédée d'un cancer à l'âge de 9 ans en 2019. Et donc, voilà, il a lancé une fondation, il a lancé un titre musical et il a mis cela en avant. Il a d'abord fait une ouverture là-dessus pendant 10 minutes. Et bien évidemment, si vous voulez participer au combat et à cette fondation, vous n'hésitez pas, la fondation Chana, pour la lutte contre le cancer chez les enfants, et je vous invite bien évidemment à vous y rendre. Voilà, c'était le côté un peu sérieux, mais il y avait une base dans tout cela, et après, derrière, il a discuté, tirage au sort de Ligue des Champions, les joueurs du Barça, etc. Et j'aimerais savoir si pour vous, cette opération de com' a été réussie pour Luis Enrique. Ça fait plus de 450 jours qu'il n'avait pas mis le nez sur Twitch, parce que c'était son habitude, il faisait ça en Espagne pour éviter un peu la presse qui le tensait un petit peu trop, quand il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Là, il a remis ça, où on a eu jusqu'à 25 000 fans qui ont suivi ce Twitch. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, Yacine, toi, de ton côté? Est-ce que c'est le terme de communication comme ça du coach? T'as ton avis là-dessus?
Bon, après, c'est pas nouveau, donc c'est, Il l'a déjà fait quand il est.
C'est pas nouveau pour lui, hein. C'est nouveau pour d'autres.
Pour tout le reste, c'est quand même super nouveau.
J'attends pas Didier Deschamps sur Twitter.
Tu t'imagines? Il serait en panique.
Ah ouais, parce que là, les questions sont un peu brutes et pas persuadé que ça lui plaise. Mais bref, non, Lucien Riquet, bon, il l'a déjà fait, et, donc je suis pas surpris. Et puis je pense aussi que on en avait déjà parlé ici. Il a un rapport aux médias qui est spécial parce que. Parce que je pense qu'il n'aime pas certaines questions. Et quand je dis certaines questions, c'est plus les formes des questions. Où je pense vraiment que c'est quelqu'un qui attache de l'importance à la forme des questions, dans le sens où...
Et là, c'est mon
truc. Ouais. À partir du moment où on a l'impression que la question est un peu un avis, ça ne lui plaît pas. Voilà. Si on lui pose une question... Parce qu'il répond dans certaines, à certains médias.
Oui, il y a des moments, c'est intéressant.
Voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment tourner la question de façon à ce que... Explique-nous ce que tu veux faire. Mais pas, j'ai pas compris ce que tu veux faire. En gros, je me mets au même niveau que toi. Là, sur Twitch, il sait que c'est un autre public aussi. Ça lui permet d'être libre. Déjà, l'événement, c'était pour une opération quand même spéciale
bien
à
sûr,
la base.
Bien sûr.
Et je pense qu'il a réussi son truc. Il a fait parler de l'association. Voilà, après, je pense que. Je suis pas persuadé qu'il en refasse si souvent que ça. Parce que c'est aussi quelque chose de spécial, parce que finalement il y a plus de filtre.
Voilà.
Alors c'était, je pense qu'il en a profité à la Coupe du Monde parce que c'était marrant et qu'il était en guerre avec les médias. Voilà, là c'était son association. Je suis pas persuadé qu'on le revoie si souvent que ça sur Twitch.
Alors on va être très clair, hein, quand tu regardes le fil Twitch sur le côté là, je suis allé le regarder
commentaires.
Tout à l'heure les commentaires. Oui, le fil, c'est à peine un fil.
Ouais.
Oh, il est en train de se foutre. Sérieusement, tu peux mettre une boîte à sous, j'en ai rien à fiche. Non mais tu vas arrêter, oui. C'est juste pour dire, c'était quasiment que des Espagnols.
Ah, c'était que des Espagnols.
Ouais. Il a pas repris une question
en français, non.
Non.
Non, 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 parce
est-ce que. Est-ce que c'est une opération de com réussie? C'est la question qu'on se pose.
Moi, je trouve que oui. Je pense que oui.
Pourquoi?
Parce que ça, déjà, ça, c'était sympathique à regarder. Moi qui suis parfois adepte des live Twitch, c'était professionnel. Alors, il n'était pas super bien cadré, mais sinon, c'était plutôt cohérent. Il interagissait bien avec les commentaires. Il choisissait bien ses questions aussi.
Bien sûr.
Donc, je pense que là-dessus, c'est intéressant parce que chaque réponse est donc forcément un peu calculée. Et puis il est paru naturel, sympathique, souriant. Il a fait parfois des vannes. Enfin, moi, il a fait une réponse sur Girona. J'ai adoré, tu vois. Donc c'est.
Ça recommence.
Mais non, mais.
Pour ceux qui nous découvrent, hein, mais c'est intéressant. C'était intéressant
parce que il te parle de toutes les équipes sans tabou, quoi. Enfin, dans les domaines qu'il a choisi dans lesquels il voulait intervenir. Et puis je pense qu'il a fait passer plein de messages aussi. Tu lui demandais.
Je vais trahir un secret, mais depuis quelques jours, à la rédaction de France Bleu Paris, j'ai un monsieur qui s'appelle Romain Bédoux, qui alors qui me charrie là, mais on s'entend hein, d'habitude, et qui me dit il veut rentrer dans la tête des Espagnols.
Des Barcelonais. Ouais, moi je pense qu'il y a de ça. Tu vois, dans les.
Toi, tu m'annonces qu'en fait, il fait une guerre psychologique comme il nous l'a fait.
Moi je pense qu'il peut rentrer dans le crâne des Barcelonais parce que Luis Enrique. Sauf respect pour ce qu'ont fait Ernesto Valverde, Ronald Koeman et maintenant Xavi au Barça, c'est le dernier grand entraîneur du Barça qui a eu de grands accomplissements. C'est le dernier qui a remporté la Ligue des Champions notamment. Il y en a d'autres qui ont remporté des championnats depuis, mais qui ont été critiqués. Valverde a été critiqué pour le jeu, Xavi est critiqué et maintenant il va s'en aller en tant qu'entraîneur bien sûr, parce que c'est toujours une légende du club. Mais la figure de Luis Enrique, comme la figure de Pep Guardiola, c'est le dernier grand entraîneur du FC Barcelone avec, et on l'a vu dernièrement aussi dans la presse espagnole, tous les fantasmes que ça peut nourrir, et s'y revenait, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Et il y a des réponses qui pour moi sont pas anodines dans le Twitch de Luis Enrique, dans lesquelles quand on lui demande son rapport au Barça, il te dit qu'il est encore socios du Barça, qu'il est encore fan du Barça, que c'est son deuxième club de cœur derrière le Sporting Gijón, qui est complètement différent de Gijón, qui est dans les Asturies et donc d'où il vient, c'est son premier club. Mais quand il dit ça, quand il dit qu'il est socios du Barça, qu'il est toujours fan du Barça, il te dit aussi, mais par contre, pour affronter le Barça, il n'y a aucun problème. Quand j'étais entraîneur du Barça et que je jouais contre Gijón, je leur mettais une trempée et il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc il y a le spectre de la crainte pour les Barcelonais de pouvoir se dire, ouais, ils nous aiment bien, Mais il peut nous en mettre une quand même. Il peut le faire. Et il y a plein de messages comme ça. Les messages sur tous les joueurs du Barça, ils pourraient être titulaires n'importe où. Il y a plein de petits messages. Donc je trouve que ça a été hyper maîtrisé. Et le fait que ça était qu'en espagnol, que toutes les questions étaient espagnoles, je pense que c'est parce que ça s'adressait quasi exclusivement qu'au public espagnol. Donc oui, c'était, pour moi, c'était réussi.
Ce qui était assez génial, c'est qu'il dit moi, je suis partant pour. Voilà, il a annoncé oui, moi, je veux bien jouer contre l'Atlético Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, et puis, si on est en finale, bon, je veux bien croiser Pep, ça me ferait plaisir. Enfin,
ou Mikel.
Ou Mikel pour Arteta, t'es là. Ah ouais, d'accord, tranquille. En fait, voilà, effectivement, il était un peu sans filtre. Alors, moi, dans le côté sans filtre, il y a deux, trois choses que j'ai notées. Bon, alors, déjà, il a annoncé, parce qu'ils sont venus le chercher pour savoir est-ce qu'il voulait revenir à Barcelone, parce qu'il y a une place. Il dit voilà, non je vais respecter mon contrat au Paris Saint-Germain,
j'ai toujours respecté mes contrats.
Donc le contrat, ben il y a une année supplémentaire au PSG.
Non, mais je pense que c'est normal, et puis je pense pas que ce soit le moment de dire
oui,
ouais,
genre, je t'imagine. Oui,
il est quand même ouais, je rêve de revenir au Barça. le plus tôt possible sera le mieux.
C'est ça.
Non, mais je trouve ça, enfin sa réponse elle était correcte, et puis de toute façon, en plus je pense que c'est aussi, enfin, il y a beaucoup d'entraîneurs qui le savent. C'est compliqué de revenir aussi quelque part. Donc, peut-être qu'au fond, lui, il se dit, j'aimerais bien, mais on sait que c'est aussi compliqué. Donc,
et sa priorité. Tu posais la question tout à l'heure de savoir si ça allait se répéter. Il y a aussi le fait que, pendant toute le reste de la saison, avoir le temps de se faire un live switch, c'est pas forcément, quand t'es entraîneur de foot, t'as pas forcément le temps.
Bien sûr.
Là, t'es en pleine trêve internationale. Il n'y en aura pas d'ici à la fin de la saison. Peut-être qu'il y en aura pendant l'intersaison. On sait jamais. C'est pour être marrant aussi. Mais en tout cas, pendant la saison, là, comme ça, avant de préparer des demi-finales de Ligue des Champions, non, je ne le vois pas retourner sur Twitch.
Ça va être assez intéressant, justement, mais ça sera un débat à venir. Mais comment va s'organiser le Paris Saint-Germain pour exister médiatiquement l'été prochain entre le Tour de France, ceux qui aiment ou pas, mais surtout avec les Jeux Olympiques au milieu, avec sa tournée à l'étranger. Je me demande comment ils vont réussir à faire leur coup. Dans sa conférence de presse, il a évoqué un point tactique, et là, on reglisse vers le terrain, en parlant de Beraldo et de Marquinhos, où il a laisser une piste transparaître. Alors je vous le dis juste, les bons joueurs, en fait la question était de la part d'un Twitchos, un Nachos, voilà, je sais pas,
un suiveur,
voilà. Beraldo, Marquinhos, bientôt milieu de terrain. Voilà, est-ce qu'on peut les passer au milieu de terrain? Les bons joueurs peuvent jouer partout, mais je crois que Beraldo est clairement un défenseur central. Il peut néanmoins dépanner en tant que latéral dans certaines situations, comme ça a été le cas. Tout dépend de l'idée de jeu. Marquinhos a déjà joué au milieu. Oui, je le vois plutôt en tant que latéral également s'il ne joue pas dans l'axe en défense. Ah, il nous manquerait pas un latéral droit pour le match face à Barcelone pour justement le match aller, Yacine.
Non, mais il nous manque déjà Marquinhos tout court, je crois.
C'est pas faux. C'est bien de le rappeler. C'est vrai que c'est bien de le rappeler.
Donc évidemment, moi de toute façon, si en l'absence d'Hakimi et parce que Mukele, on a bien compris qu'il fallait une hécatombe pour qu'il puisse jouer. Évidemment que pour moi, la meilleure solution, c'est Marquinhos, parce que Zaïre Emery, déjà, t'en as besoin au milieu. Qu'en plus, quand il est à droite, je trouve qu'il est bridé, un peu perdu. Pas dans son rôle, mais dans le double rôle qu'on lui demande. Ça fait beaucoup. Et Marquinhos, il a déjà joué à ce poste. Alors, pour avoir échangé avec plein de gens, quand on parlait de ça, on me dit « Ouais, mais ça fait longtemps. » Alors déjà, je pense que ça fait longtemps, ça veut pas dire grand chose. Ouais. C'est des joueurs quand même de très haut niveau. Et ensuite, je pense que c'est un rôle qui lui correspond bien. Et en plus, dans l'idée qu'on voit depuis le début de saison, alors évidemment qu'il manquait Mendes en début de saison. Alors il va manquer Hakimi aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on aura les deux. Dans l'idée qu'on a de un peu déséquilibrer un côté ou de défendre à trois sur certaines phases. Finalement, tu te retrouves avec la même configuration, mais inversé, quoi.
Voilà, moi, c'est le point essentiel, ça.
Ouais. Donc, du coup, tout semble coordonné pour que Marquinhos soit là. Il ne reste plus qu'à Marquinhos à être là, quoi.
est-ce que c'est en rentrant dans la tête des Barcelonais, il a lancé ce type à Xavi pour se gratter la tête là-dessus.
Tout était des petites informations, mais là, moi, pour le match aller de Barcelone, bon, on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, mais
c'est toujours bon d'en parler parce que ça arrive bientôt.
Oui, mais j'exclurai pas la solution Mukele. parce que justement le pendant de l'autre côté c'est Nuno Mendes. Et donc là, tu as Mukiele qui peut faire office de arrière-droit défensif qui va rentrer dans l'axe sur son bon côté, qui est le côté droit, avec un latéral gauche plus offensif qui serait Nuno Mendes. Mais, et pareil, quand c'est
le temps de jeu, quoi.
Ouais, c'est vraiment.
Après Marquinhos, il en aura pas plus.
Mukiele, il a pas joué pendant deux mois. Il avait joué, et d'un coup, il a mis au parc un match complet. C'était contre qui déjà? Je me rappelle plus.
Non, c'est à Monaco qui joue.
Non, avant. Il y a un match au parc qui joue, je crois que c'est contre Brest, je crois.
Ouais, c'est possible.
Il joue 90 minutes et puis d'un point de vue caisse, on voit pas la diff. Ouais, quoi. Ouais. Donc là-dessus, même si je sais que d'un point de vue extra-sportif, il balade un petit peu Mukiele en ce moment, je pense qu'il y a, il y a possibilité qu'il soit une alternative. Mais ça en revient aussi à la réflexion que tu relatais sur.
T'es face à Monaco, c'est toi qui avais raison. 90 minutes de jeu.
Ouais, et il y a pas avant aussi au parc. Il y en a un avant au parc.
Ça revient. Vas-y, continue.
mais donc sur Marquinhos, sur les réflexions, ça fait longtemps qu'il a pas joué à ce poste-là. Le poste d'arrière, s'il est mis arrière-droit là sous Luis Enrique avec un Nuno Mendes à gauche, c'est pas le même poste d'arrière-droit qu'il avait avec Ancelotti, voire début de Blanc,
un vrai latéral.
Où c'était un vrai latéral. Là, ça sera plus un latéral qui reglisse dans l'axe et qui sera plus défenseur central.
Match face à Monaco le 1er mars, 90 minutes, et match face à Lille arrière-droit pendant 90 minutes pour...
Donc c'est ce match-là où il avait... Il courait partout. Même à la fin du match, il était pas fatigué, alors que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, quoi.
Bon, écoutez, en tout cas, on aura glissé là-dessus et on aura parlé de ce live Twitch de notre coach. Il a parlé de l'avenir de Kylian Mbappé, mais bon, ça...
Je peux pas en parler.
La petite blague, c'est est-ce que Mbappé sera titulaire en Barcelone,
tu crois?
C'est ça, il l'a un peu envoyé bouler. Puis derrière, il a aussi encore encensé Zaïre Emery ou parlé du cas Xavi Simons. Bref, il a dit pas mal de choses.
Je pensais qu'il avait un peu plus de caractère parce qu'il a dit je peux pas faire de vélo, la météo, je le trouve un peu fragile.
sur la vie à Paris, c'est
ouais,
ça.
Nous, ouais. On n'arrête pas de vivre à chaque fois qu'il pleut. Hein.
Ouais, bah, tu sais que petite anecdote, mais c'est vrai en plus. Les chiens d'Asensio ont eu du mal à si je te l'avais raconté ça. Ouais. Non, ils ont eu du mal
à s'acclimater
à la vie à Paris parce qu'il faisait pas assez chaud. Ouais. Voilà, c'était tu vois au mois de.
On n'est pas des fragiles ici. Hein.
Tu t'imagines les toutous qui étaient pas bien. Bref, en tout cas, je veux juste vous rappeler la fondation Chana, hein, donc c'est le prénom de la fille de Luis Enrique décédé à l'âge de 9 ans. Et le but est de récolter des fonds pour aider les parents de jeunes touchés par des maladies rares à un cancer. Voilà, donc si vous avez envie de faire un don, vous allez sur internet et vous retrouverez le lien pour la fondation Chana. Voilà, c'était pour quand même aussi en parler, puisque le but aussi de ce Twitch était de faire parler de l'association et de la mettre en avant. Voilà pour ce débat-là. Et désormais, on va regarder le calendrier, puisque le calendrier, il va nous proposer un match dimanche, OM Paris Saint-Germain. J'ai déjà croisé un collègue dans les couloirs tout à l'heure, fan de l'Olympique de Marseille. Il fait « Alors, prêt pour dimanche ?» Et là, je lui dis « tu sais, je sais pas si c'est vraiment le match le plus important du Paris Saint-Germain, sur le calendrier, si je regarde. » Et là, il a fait une mine un peu déconfite en se disant « Il se fout de moi ou c'est pour de vrai ?» Alors, on n'est pas en train de se demander s'il faut envoyer les Minots ou les Titis du PSG, mais quand même, se demander s'il faut faire brasser un petit peu cette équipe avec cette question qu'on vous a posée, les garçons. OM-PSG, Paris doit-il envoyer son équipe type au Vélodrome? Oui, on se la tente, cette question. Faut se la tenter. Yacine, c'est toi qui attaques, parce que c'était toi qui avais commencé, ouais. C'est ça, il y a quelques instants. C'est toi qui attaques, Yacine. Est-ce qu'il faut... parce qu'on rappelle le calendrier. Marseille, le mercredi suivant, il y a Rennes. Après, on va dire que c'est le match un peu plateau avec l'équipe de Clermont-Ferrand. Ça, ce sera le samedi 6. Et ensuite, derrière, c'est Barcelone qui arrive le mercredi 10. Et ensuite, ça va s'enchaîner comme ça. Votre avis et ton avis déjà, est-ce que tu dois y aller avec ton équipe type parce que c'est l'OM, parce que c'est le Classico et parce qu'on perd pas là, du côté du Vélodrome?
Mais clairement.
j'ai envie de m'en tirer une, tu vois, genre comment t'as pu poser une question pareille?
Et je dirais même que il faut y aller avec l'équipe type et faut aller leur mettre le maximum, c'est pas juste une victoire, parce que ce sera toujours bon à prendre. Non, mais blague à part, oui, je pense qu'il faut y aller avec l'équipe type, parce que bah déjà, l'équipe type, c'est quoi ? Avec Luis Enrique, finalement.
C'est vrai, c'est pas faux.
Je pense que sur les... Il y a trois matchs avant Barcelone, et j'en avais parlé souvent sous l'ère Galtier, dans les différents médias. Quand on est coach et qu'on imagine un peu la rotation, on l'imagine pas d'un match à l'autre, en fait. On l'imagine plus sur une période. En gros, on se dit trois matchs. Tiens, lui, il doit jouer au moins deux matchs. Lui, il doit jouer deux matchs et demi. Lui, voilà. Moi, je pense que je verrais pas, par exemple, quelque chose d'incongru une grosse base de l'équipe type démarre Marseille et la Coupe de France et que ça tourne beaucoup contre Clermont à trois jours de Barcelone. Donc je pense qu'il faut envoyer l'équipe type sur Marseille, sur les deux de suite. Moi, je mettrais la grosse équipe sur les deux de suite à un ou deux changements près, en deux jours près. Et voilà, et je pense que le match, malgré tout, Marseille, on a vu, même pour les supporters et tout, le fameux 2-2 où, après l'arrivée d'Mbappé Neymar, quand Mbappé dit « Oh, on s'est pas rendu compte voilà, l'importance du match finalement et tout ». C'est un match qui a toujours de l'importance, c'est un match qu'il faut gagner. On l'a vu quand il y a eu une contre-performance les deux dernières saisons là, contre l'OM. C'est quand même quelque chose qui est énervant. Et je pense que ce n'est pas un match à balancer, entre guillemets.
C'est pas le match à balancer, vient de dire Yacine. Romain, est-ce que toi tu vas sur cette lignée ou est-ce que pour toi c'est Rennes le match le plus important, c'est Coupe de France, demi-finale. Et justement, est-ce que cette rotation doit se jouer dans ce match-là ?
Comment dire ça ? Est-ce qu'il faut les exploser ? Oui. Est-ce qu'il faut les défoncer tout ? Oui. Est-ce que c'est le match le plus important ? Non. Pour moi, c'est pas le match le plus important. Parce que c'est important pour nous, pour les supporters, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes d'accomplissement d'équipe sur la saison, le match de Rennes, pour moi, est beaucoup plus important. Et donc, si tu as des titulaires indiscutables, s'il y en a un au PSG sous Luis Enrique, mais qui sont un peu diminués post-trêve internationale, les faire un peu manquer Marseille et quitte à ce qu'ils rentrent pour qu'ils fassent Rennes, s'il y a un choix à faire, je préfère que ce soit ce choix-là. Et donc, je pense que vu notre effectif, et vu Marseille et en plus les absents qui commencent à se confirmer chez eux aussi, parce qu'ils ont par exemple Ismaïl Assar qui va être absent, etc. Je pense qu'avec une équipe à prime, il y a moyen de les botter. Donc je pense qu'il y a une manière de pouvoir gérer l'effectif tout en envoyant une équipe solide, hein. Mbappé doit jouer par exemple, il faut leur envoyer une équipe assez solide, pas forcément l'équipe type, parce que je pense que tu peux les botter quand même, même si t'as pas besoin de ton équipe type pour les botter. Et je pense même que suivant le scénario de la rencontre, tu peux leur mettre un tarif même sans l'équipe type. On va se rappeler le match aller, il y a 3-0. 4-0, pardon. Le match aller, il y a 4-0 avec un Mbappé qui sort à la 30e. Donc c'est une équipe qui n'est pas forcément type aussi pour. Et il y a 0-0 quand il sort. Hein. Non, il y a 1-0 quand il sort. Mais donc il y a possibilité de les botter sans avoir l'équipe type. Si on peut gérer l'effectif pour privilégier Rennes, demi-finale de Coupe de France. Ensuite, envoyer qui on enverra. Je postule, si vous voulez, pour le match de Clermont.
Ça y est, toucher la prime de match.
Et ensuite amener l'équipe qu'il faut pour le Barça. Voilà, je pense qu'il faut penser à ça dans la gestion des trois matchs.
J'ai pas l'impression que Yacine soit complètement d'accord sur ce que je viens d'avancer, Seigneur.
Non, je suis d'accord. Je comprends. Je comprends ce que Romain dit. C'est dans le sens, si on est un peu détaché, évidemment que. Entre les deux, le match le plus important, c'est quand même d'aller chercher la finale de la Coupe de France.
Oui, d'accord.
Mais pour nous,
mais je dis ça en une équipe à prime. C'est parce que je considère vraiment la force de notre équipe à prime. Je considère la force de notre équipe, même s'il y a un Lekanguin qui joue, même s'il y a un Mukiele par exemple qui joue, même s'il y a un Ugarte qui joue qui est pas censé être dans l'équipe type, etc.
Sauf que ces garçons-là ne connaissent pas l'environnement quand tu entends.
Ugarte, je pense que ça va.
Un Lekanguin, tu crois que ça va pas le défriser ?
Draxler, ça l'a pas défrisé quand il fait son geste comme ça, quoi. Donc voilà, il y a des. Je pense qu'il y a moyen de les. Je serais intransigeant sur le résultat, mais je pense que même avec une équipe A prime et avec de la gestion d'effectifs pour et de la rotation, tu peux les taper comme ça. Donc
je sais pas, il paraît que c'est la grande révolution, qu'on a retrouvé un grand coach du côté de Marseille et que
non, mais ils vont avoir des absents en plus. Ismaïla Sarr par exemple, c'est un des joueurs qui revient beaucoup mieux depuis justement Jean-Luc Gasset dans un nouveau positionnement, etc. Le fait qu'il soit absent plusieurs semaines, s'est blessé, c'est une vraie absence quoi.
Sachez que bon, pour ma part, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours apprécié,
monsieur Jean-Luc Gasset.
Vraiment, non, franchement, et le travail qu'il a fait du côté de Paris, faut jamais l'oublier. Laurent Blanc l'oublie pas d'ailleurs.
Le travail de coach.
Le travail de coach. Bah oui, parce que c'était un peu notre coach bis. Mais tu sais que, enfin, j'aurais toute ma vie, je ne sais plus, je n'arrive plus à retrouver le match. Unai Emery est notre nouveau coach. On est en Trophée des Champions. Je ne sais plus où on est. Et on se retrouve à jouer face à une équipe où Jean-Louis Gasset est là. Et il y a toute l'équipe qui se déplace d'un coup. Tu sais qu'il va le voir, mais vraiment avec une... Tu sens qu'il y a de la sympathie, qu'il faut venir toucher le coach, venir le saluer. Et vraiment, il y a un truc assez fort qui s'est quand même passé avec lui pendant des années. Donc oui, Yacine, tu n'avais pas l'air complètement d'accord avec les arguments de l'ami Romain. Mais en tout cas, ce PSG, face à Marseille, a quand même... Bon, tu vois, les armes, oui, mais doit aller faire un résultat. Parce que tu lances aussi ton gros calendrier.
Mais je pense
du mois d'avril, tu peux pas te planter en fait.
Non, mais c'est ça qui est important. Et puis malgré tout, une victoire. Déjà à l'extérieur, c'est toujours important. C'est toujours bien de gagner. Au Vélodrome, encore plus. Comme tu le dis, tu lances ta série. Et c'est toujours des matchs importants. Parfois, on minimise un peu l'impact de ces matchs parce que dans le retentissement qu'ils ont auprès des supporters. Ça donne aussi quelque chose et ça casse pas une dynamique ou ça casse pas une ambiance. Donc évidemment qu'en termes comptables, une défaite à Marseille, ça changera pas si tu seras champion à la 31e journée au lieu d'être champion à la 29e. mais en termes d'ambiance générale, d'optimisme, de confiance, dans une saison de reconstruction où finalement est-ce qu'on attendait autant de ce PSG, je sais pas. Enfin voilà, donc je trouve que ce serait un bon point de départ sur cette série-là, avant d'attaquer justement cette demi-finale de Coupe de France et puis ce match aller-retour face à Barcelone. Ce serait bien quoi.
Parce qu'on est sur en plus une série de 24 matchs, on le rappelle, sans défaite du côté du Paris Saint-Germain. Ça remonte la dernière défaite au match face au Milan AC du là-bas. Côté de San Siro. Et depuis, le Paris Saint-Germain est invaincu. Et ça tombe bien, le match OM-PSG sera à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris dès 20h30, coup d'envoi à 20h45 pour cette rencontre à vivre en intégralité. Et bien sûr, tous les matchs seront à suivre sur l'antenne. J'ai juste une dernière question, parce qu'en fait, je viens de taper un petit écran et je viens de me dire, tiens, ça vient de me faire un réflexe. Juste votre avis très rapide. On parlait tout à l'heure de la trêve internationale, des calendriers un peu. Que pensez-vous, très rapidement, de la décision de la Ligue de football de venir aider les clubs français pour leur quart de finale de Coupe d'Europe, puisqu'on rappelle, le PSG en quart de finale de Ligue des Champions, Marseille en quart de finale d'Europa League et Lille en quart de finale d'Europa Conférence, la C4. Donc, en fait, le calendrier nous annonce que le 14 avril et le 15 avril, hop, c'est férié pour ces équipes-là, elles ne joueront pas et leur match est reporté. Que pensez-vous de cette décision de la Ligue de football d'aider et donc de laisser 6 jours de battement à tous les clubs pour pouvoir respirer avant de jouer leur quart retour. Yacine, il en est mort de rire.
Non, oui, parce qu'en fait, dans la réflexion, on peut dire c'est bien parce que évidemment que les points UEFA, les parcours des clubs français en Coupe d'Europe sont importants. Le problème, c'est de considérer que finalement, enlever un match, c'est bien. Et moi, j'ai gardé en mémoire ces deux passages-là du PSG. C'est les deux fois avant Chelsea. Il y a une fois où on joue pas sur une plus longue période et on est éliminé. Et la saison suivante, on joue 3 matchs en 6 jours. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était le match contre Caen on finit à 9. Et tu vas te qualifier là-bas. Donc en fait, ce qui m'énerve, en fait, c'est plus la démarche de dire 3 matchs en 7 jours, ça va être trop, il faut vous en enlever un. Que dans l'idée globale, ce soit un positif, oui. Mais moi, j'ai jamais compris cette idée qu'on pouvait pas jouer tous les 3 jours.
C'est pas faisable.
Pour moi, c'est... Voilà, encore une fois, le PSG a été très bon des fois quand il enchaînait les matchs, plus que quand... Et je me rappelle même cette saison-là, il y a une autre période où il y a Paris à une semaine de repos, c'est avant Lyon, et on se fait taper là-bas. En fait, les deux fois où dans l'année, t'as eu une semaine sans match,
sans match,
c'est là où tu perds les deux fois.
Voilà. C'est que les joueurs n'aiment pas s'entraîner, c'est pour ça, ils préfèrent les matchs.
Bien sûr.
Ils préfèrent la compétition, on est bien d'accord. Romain, toi, ton avis?
Non, moi, je suis un peu plus nuancé, je trouve ça bien. Trouve ça bien.
Tu donnes une chance au club français de
Tu minimises les risques de blessures avant, de petites blessures. D'ailleurs que les, je te parle pas des mecs qui se fait des croisés, etc. Mais les petites blessures qui te prennent une semaine, qui te mettent KO pour un match important, tu te les enlèves. Donc c'est en ça. Maintenant, je trouve ça un peu injuste pour Lorient, notamment. Autant Marseille et Nice, ils jouent des adversaires directs, donc ça influe pas forcément. Mais Lorient, qui a rien à voir et qui va se taper un PSG frais, qui aurait pu, comme Clermont, là par exemple, faire le PSG aurait pu faire tourner face à eux, c'est un peu injuste pour eux, faudrait pas donner les calendriers dès le début. Je sais qu'en NBA ils font ça, par exemple en NBA les calendriers en début de saison, on sait pas comment il sera fait au fur et à mesure de la saison, et après c'est adapté, c'est ajusté au fur et à mesure. Et donc si tu mettais des affiches européennes avec que des clubs européens qui s'affrontaient peut-être, là, avoir plusieurs luttes qui soient un peu influencées par ça, c'est un peu plus embêtant.
En tout cas, on le rappelle, le match a été reporté, le Lorient-Paris Saint-Germain, reporté au 24 avril prochain, un mercredi à Lorient, en plein milieu des vacances. Ça va être formidable. Merci, c'est vraiment une excellente idée pour le déplacement. Je vais adorer ce petit moment de convivialité dans les moyens de transport. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher cette émission, de vous dire au revoir déjà. Oh, ça a pas du tout, ça a pas du tout. Ça, c'est de la faute à la trêve internationale. On vous l'a dit depuis le début de l'émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Romain, merci à Yacine, merci à Sarah qui réalisait cette émission. Oui, Romain.
Je peux rajouter juste un tout petit
truc. Qu'est-ce que tu vas me sortir?
Non, mais vraiment. 25 mars, j'ai une pensée pour Thierry Gilardi. Voilà,
oui,
c'est tout.
Bah, c'est une très bonne pensée, effectivement. On pense à sa famille et ses proches, bien évidemment. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, je vous rappelle que Maître Bédouk a dit qu'il fallait mettre des pouces et plein de petites étoiles pour émettre des commentaires. Surtout, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour le PSG en direct. Ce sera dimanche avec OM Paris Saint-Germain, bien évidemment, à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris. Et puis, on se retrouve pour le débrief le lendemain matin. Ça ne sera pas un poisson d'avril. C'est une blague à la Romain Bédouk. Mais en tout cas, ce sera le 1er avril pour la tribune. On se retrouve, bien évidemment, pour le débrief entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Ciao, bye bye, il est temps de débrancher cette émission.